VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h temps universel, les électeurs de Sao Tomé et Principe ont élu dimanche, dès le premier tour, le candidat du parti au pouvoir à la présidence de la République. Evaristo Carvalho, candidat soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa et 24,8% selon la commission électorale. Le tribunal constitutionnel doit encore valider ces résultats, a précisé la commission. En République démocratique du Congo, deux opposants ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi. C'était à la suite d'une bagarre pour le contrôle d'un parking de taxi-moto. Idriss Fall.
Olivier Kabbala et Eustache Mutombo ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Maître Alexandre Ngoy, leur avocat commis d'office, a dénoncé un procès hautement politique et a trouvé suspect que ses clients étaient seuls au banc des accusés. Le samedi, une dispute avait opposé les deux hommes à leur ancien camarade de la majorité présidentielle sur la gestion d'un parking de taxi-moto dans le fief de l'opposant Gabriel Kiungu Wa Kumwanza, leader de l'UNAFEC. La dispute s'est transformée en bataille rangée, il y a eu des blessés légers. Ces deux militants de l'UNAFEC ont été donc arrêtés, jugés et condamnés pour tentative de meurtre selon le greffe du tribunal. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, est membre du G7, groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'opposition accuse M. Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir à la fin de son mandat en décembre.
Le roi Mohamed VI a annoncé dimanche que le moment était arrivé pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la commission de l'Union africaine. Le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui l'UNICEF au premier jour de la conférence internationale sur le sida en Afrique du Sud, soulignant que la bataille contre la maladie n'était pas terminée. La ville sud-africaine de Durban accueille de lundi à vendredi la 21e conférence internationale sur le sida, destinée à relancer les efforts contre l'épidémie qui a fait plus de 30 millions de morts. Quelque 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds, mais aussi des personnalités comme le prince Harry et l'actrice sud-africaine Charlize Theron y seront attendus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le tireur qui a tué 3 policiers et blessé 3 autres dimanche dans la ville de Baton Rouge a été identifié comme étant un ancien du corps des Marines, répondant au nom de Gavin Long. Le président Barack Obama a condamné les meurtres en disant que de telles attaques surviennent trop souvent. Il a appelé les Américains à éviter la rhétorique de division suite à ce dernier acte de violence. Le président américain a qualifié ce crime d'attaque lâche sur des fonctionnaires, sur l'état de droit et sur la société civile. Pour comprendre l'atmosphère après cette nouvelle tragédie à Baton Rouge, Idriss Fall a joint Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne.
Moi, je suis là depuis bientôt une dizaine d'années, mais je peux dire qu'avant que cet incident malheureux qui a eu lieu, tout se passait très bien. Mais depuis que ce jeune homme qui vendait des CD qui a été abattu par 2 policiers blancs devant une boutique a ravivé les tensions de communauté entre la police d'un côté et la communauté noire de l'autre côté. Donc je peux vous dire quand même qu'il y a une peur, tout est aux arrêts, les gens ne sortent plus comme avant, les marches continuent toujours. Sur la route qu'on appelle Airline, il y a toujours des manifestations, de ce qu'on appelle le Black Lives Matter, avec les autres mouvements noirs qui sont là, et avec aussi d'autres citoyens blancs qui manifestent chaque jour. Il y a toujours cette tension qui est là, visible. Donc, je crois qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance ou peut-être aussi que les gens en ont un peu marre de ce qu'on dit, ce shooting, cette agressivité de la police contre les citoyens.
Un résident de Baton Rouge, Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne. Après une campagne au cours de laquelle il a déjoué tous les pronostics, Donald Trump s'approche aujourd'hui du couronnement avec le début de la convention républicaine où sa femme, Melania, sera en vedette au premier jour. La convention s'ouvre officiellement à 13h, heure locale, 17h, GMT. CMT à Cleveland, dans l'Ohio, une ville de 400 000 habitants qui a pris des mesures de sécurité exceptionnelles dans l'attente de milliers de manifestants. Les forces de l'ordre sont particulièrement tendues après les attentats d'Orlando en Floride, de Nice en France, la mort le 7 juillet de 5 policiers à Dallas et celle de 3 autres policiers à Baton Rouge en Louisiane, tués par un ancien Marines ayant servi en Irak. En attendant le début de la grand-messe à Cleveland, Idrissa Seydou Dia, l'un de nos envoyés spéciaux, nous fait découvrir ce qu'est une convention.
The convention is the democratic process at work.
Pour ce délégué de l'Iowa que j'ai rencontré ici à Cleveland, la convention, c'est le processus démocratique en action. Il explique qu'il a été élu directement par le parti de son État pour venir appuyer ici son candidat et lutter, je cite, pour notre homme pendant l'automne et, s'est-il repris, dans certains cas, une femme. Historiquement, les délégués n'étaient pas si puissants. Il a fallu l'établissement des primaires au 19e siècle et surtout au début du 20e siècle pour commencer à leur donner, à ces délégués, le pouvoir effectif de sélection des candidats de leur parti respectif à la présidence. À noter que la Constitution américaine ne dicte pas aux partis combien ils doivent être et encore moins comment ils doivent mener leurs affaires internes. Autrefois, c'était la machine du parti ou encore les barons du parti qui choisissaient les candidats à la présidence et à la vice-présidence et faisaient entériner leur choix par les délégués. L'expression que l'on utilisait en anglais pour ce processus était le « smoke-filled room », littéralement « la salle remplie de fumée ». Et je ne suis pas sûr qu'on parlait ici des cigares que l'on fumait, plutôt l'opacité du processus. Les choses ont pris un tournant décisif en 1972, surtout après l'expérience des démocrates en 1968 à Chicago. C'était en pleine guerre du Vietnam. Le président Lyndon Johnson, qui faisait face à une sérieuse opposition au sein de son parti, a décidé de ne pas se représenter. Son vice-président, Hubert Humphrey, qui n'avait participé à aucune primaire, avait été quand même investi pour briguer la présidence au nom du Parti démocrate. La démocratisation consécutive du processus a permis en 1976 à un parfait inconnu, un certain planteur de cacahuètes de Géorgie et ancien gouverneur de cet État, de s'imposer. On peut dire la même chose avec Barack Obama en 2008. On peut dire aussi que l'homme que les républicains vont introniser dans cette convention a bénéficié largement de la démocratisation du processus de sélection des candidats lors des primaires. D'aucuns pensaient lui barrer la route en faisant changer d'avis un nombre suffisant de délégués ou en faisant appel à leur conscience et les amener à ne pas se sentir liés par les résultats de leurs primaires respectives. Ça n'aura pas lieu à cette convention. Idrissa Seydou Dia à Cleveland.
Voilà, merci Idrissa. Les forces de sécurité turques ont effectué tôt ce matin de nouveaux coups de filet dans l'armée, poursuivant le grand ménage entrepris par le président Recep Tayyip Erdogan, qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Anne Albertson.
Au total, quelques 6 000 militaires ont déjà été placés en garde à vue et près de 3 000 mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de juges et de procureurs après la tentative de coup d'État qui a officiellement fait au moins 290 morts, dont plus de 100 putschistes. La communauté internationale a mis en garde la Turquie contre la tentation d'une répression généralisée. Le président américain Barack Obama a ainsi rappelé le besoin vital que toutes les parties concernées agissent dans le cadre de l'état de droit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a souligné que ce coup d'État avorté n'était pas un chèque en blanc au président Erdogan pour procéder à des purges. Même son de cloche à Bruxelles, où Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a souligné que le respect de l'état de droit et de la démocratie était le meilleur moyen d'affronter les difficultés que vit la Turquie.
Pour sa première réunion aujourd'hui avec ses homologues de l'Union à Bruxelles, de l'Union européenne, le nouveau chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, chantre du Brexit, qui a établi d'emblée que le Royaume-Uni voulait continuer à jouer un rôle moteur en Europe. Le Royaume-Uni table sur le 1er janvier 2019 pour sa sortie effective de l'Union européenne. Jean-Roger Billon, à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.